Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Antiquissimo, c'est aussi tout ce qui concerne la reconstitution de l'Antiquité. Et aujourd'hui, dans ce cadre de la reconstitution, une petite visite à l'atelier de Françoise Rebord à Beaucaire s'impose, car cette potière, cette céramiste, a conçu un programme autour d'un plat étrusque. Il y en a plusieurs exemplaires dans les musées, au musée du Louvre, au musée d'Aléria, et de ces plats spécifiques, notamment des plats à poisson. Le décor témoigne en effet de motifs maritimes, et au milieu, il y a une petite alvéole bien creusée, bien nette, qui devait servir à recueillir de la sauce pour accompagner ce poisson. Mais rentrons dans cet atelier et écoutons les explications de la pédagogue et artiste Françoise Rebord. Alors Françoise Rebord, on se connaît très bien maintenant depuis le nombre d'années où je viens dans ton atelier, où tu façonnes des crocos d'airain pour le prix de la BD antiquisante, pour les nombreuses fois où tu es venue dans les classes, dans les écoles, faire des choses aux enfants. Donc on se connaît très bien. Et là, je t'avais demandé pour l'association Carpe Feuche de nous réaliser un atelier autour d'un plat à poisson type étrusque, on va dire. Alors, est-ce que ça t'a posé problème de réaliser ce projet? Est-ce qu'il t'a fallu du temps? Comment ça s'est passé pour que ça germe dans ton esprit et que tu puisses nous proposer cet atelier?
Alors déjà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'atelier. Et ce thème-là, déjà, dans un premier temps, m'a surprise parce que je l'avais jamais regardé ou exploité, enfin... je l'avais vu de loin, mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment étaient faits ces plats étrusques. Du coup, je trouvais que c'était un challenge de travailler sur cette thématique-là. Donc, ça fait quand même quelques mois où j'ai été dans de nombreux musées pour aller chercher ces assiettes étrusques et découvrir ce décor qui est splendide. Et donc, j'ai mis en place l'activité à travers différents types de façonnage en amont et d'expérience pour arriver à mettre en place un atelier où vous avez été très intéressant et très intéressé pour adhérer à la technique que je vous proposais.
Alors, cette technique, on essaie de se rapprocher des motifs antiques, mais rien ne garantit que c'était fait comme ça à l'antique.
Rien ne garantit. Déjà, ces assiettes, pour moi, étaient tellement bien travaillées qu'elles étaient sûrement tournées ou tournées. Il y avait, je pense que les ateliers étaient divisés, c'est-à-dire qu'il y avait des décorateurs qui avaient une dextérité en tenant un pinceau ou un type de pinceau ou des choses comme ça, en fait. Et après, il y avait celui qui façonnait. Donc nous, ce matin, on a travaillé un façonnage sans l'aide du tour de potier. Parce que pour faire du tour, il faut une certaine expérience et ce n'était pas envisageable de travailler comme ça. Du coup, on s'est aidé d'un estampage où là, la pièce est déjà tournée. On a positionné de l'argile dessus et c'est comme si la pièce avait été tournée. Sachant qu'on a quand même modelé certains éléments pour pouvoir vraiment rencontrer l'argile, la matière première. Et en ce qui concerne la décoration, j'ai essayé d'être explicite dans une décoration, mais ce n'est pas évident puisque en décoration, il faut quand même faire et refaire beaucoup de décorations pour avoir un geste qui ne tremble pas. J'ai mis pas mal de documents et après on a interprété et les apprenants stagiaires ont interprété le décor à travers des images mises à disposition.
Alors, il y avait comme référence des images qu'on trouve au Louvre, des reproductions, des photos d'objets qu'on trouve au Louvre. Moi, j'en avais admiré un au musée Carcopino à Aléria. Ce sont des thèmes marins qui sont assez fréquents et qui donnent en effet lieu à tout un tas d'interprétations que tout un chacun réalise comme il veut. Alors, on a chacun en effet créé à sa façon, mais en essayant d'approcher l'esprit des Étrusques, peuple de navigateurs. Si d'autres personnes ont envie de réaliser un atelier comme ça, que doivent-ils faire? Ils te contactent?
Ah oui, d'accord. Si des personnes voudraient faire en effet ce genre d'atelier, il faut qu'ils me contactent par téléphone ou par mail et on définira ensemble du projet et ensuite ils viendront le réaliser dans l'atelier.
Alors donc, toi, bien sûr, tu n'es pas comme nous, monomaniaque et tu ne t'intéresses pas qu'à l'Antiquité, mais nous, dans le cadre de cette thématique antique, on a pu réaliser des petites colonnes, des masques, des lampes à huile, donc tout un tas d'objets qui parlent du temps passé qu'on interprète au temps présent.
Tout à fait. Tout objet ancien peut, par un travail en amont, être proposé dans mon atelier. Et après, on peut aussi travailler sur des objets contemporains d'artistes qui et essayer de refaire sur des thématiques d'artistes contemporains des projets aussi. Par exemple, je pense aux Nanas de Niki de Saint-Phalle. Je l'avais proposé une année et ça avait très bien marché, avec une belle interprétation. Donc on peut aller voir du côté de l'Antiquité comme du côté de l'art contemporain.
Alors l'atelier se trouve à Beaucaire, on va rappeler l'adresse, on va donner soit un mail, soit un numéro de téléphone afin que d'autres personnes puissent éventuellement te suggérer quelque chose à réaliser dans un petit groupe de 6 personnes, c'est
dans
le maximum.
Dans un petit groupe de 6 personnes, ou aussi, tout va dépendre, ça peut être aussi des grosses structures, je peux aussi me déplacer sans problème.
D'accord.
Pour aller faire ce genre de projet.
Alors l'atelier, c'est l'atelier de Françoise Rebord qui se trouve
Sur la place de la République à Beaucaire. Donc il y a une très belle place et il y a un atelier où il y a écrit céramiste. C'est mon atelier, donc il y a une exposition lorsqu'on rentre et après on peut voir aussi l'espace de création qui se trouve attenant.
L'atelier existe depuis combien d'années?
Ça fait maintenant 25 ans que je suis installée à Beaucaire et que j'essaye de faire vivre cet atelier.
Ben, c'est une belle réussite.
Donc on est parti sur la thématique de la céramique étrusque avec sur quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire qu'on a observé, notamment en Italie, sur toute la partie où il y a eu des fouilles et des choses faites sur les lieux étrusques, qu'il y avait des coupelles, je ne sais pas si on peut les appeler coupelles, mais je pense que oui, où il y avait, qui étaient assez plates, avec un petit trou un petit peu au milieu, mais une petite réserve au milieu de l'assiette, et qui avait un bord qui retombait, en fait, sur les côtés. Et lorsqu'elles étaient bien nettes, on pouvait voir des poissons. Donc on est proche de la Méditerranée et je pense que ces poissons, c'est pas pour rien qu'il y avait cette thématique-là. Après, sur des coupelles étrusques au musée de la Romanité, on peut voir sur les mêmes périodes deux coupelles, je crois qu'il y en a deux, ou une, avec un visage qui est mis dessus avec une forme un petit peu plus différente. Donc nous, l'objectif de la thématique qu'on a choisi avec Martine, c'est travailler la coupelle étrusque. Et du coup, on partira sur la thématique du poisson, Mais on peut aussi partir sur une autre thématique, le visage. On n'est pas non plus restreint dans nos... dans nos choix de décoration. Comment va se passer la journée? Alors ce matin, on va fabriquer, modeler une coupelle avec l'aide d'un moule de l'estampage. Donc c'est une activité que il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde peut la faire. On est dirigé à travers cet estampage-là. Et puis on va travailler les bords. Alors c'est là où c'est le plus embêtant, donc on travaillera peut-être pour ceux qui veulent l'intérieur pour avoir cette petite réserve, si on le veut, hein, mais pour avoir une espèce de reproduction d'une coupelle étrusque, qui n'est pas forcément gênant après à l'utilisation, parce que ces coupelles, vous allez vraiment pouvoir les utiliser après chez vous. Hein, donc la forme, et on va travailler sur le bord. Alors pour ceux qui ne se sentent pas, on peut laisser un bord comme ça. Mais on peut aussi faire un bord avec un marli. Alors ça, c'est pas les assiettes à poisson, c'était pas ce bord-là. Hein. Celle de Nîmes, où il y a le visage, c'est comme ça, au niveau du bord. Donc on voit une forme, voilà, un peu...
Et un aplat.
C'est un aplat. Par contre, sur les coupelles à poisson, on pourra faire aussi autrement. On peut choisir aussi la coupelle sans bord, mais en tout cas, il y a une petite retombée. Et j'ai constaté qu'au niveau de l'émaillage, cette retombée était bien pratique en fait. Je ne pensais pas faire la retombée, et tu as insisté un petit peu pour qu'il y ait une retombée sur la coupelle. Du coup, j'ai fait plein de tests. Et en fait, quand on émaille, comme les assiettes étrusques n'étaient pas émaillées dessous, dans les musées, j'ai essayé d'observer, il n'y a pas d'émaillage dessous. Lorsqu'on émaille, en fait, il n'y a pas de gouttelettes, c'est-à-dire que le bord... C'est nickel en fait, hop, on le passe et donc ça bave pas, alors que sur celle-ci ça va baver, alors du coup on émaille dessous, on s'embête un peu. Donc en fait ça c'est juste, observer la forme. Donc il y aura une coupelle et puis après une forme, je vais vous diriger, je vais la faire avec vous en fait. Donc ça sera l'objet et après un petit pied. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et puis cet après-midi, on va travailler la décoration. Il y a une petite iconographie que je mettrai, et là elle est limitée, mais j'en ai beaucoup, on va dire. Une autre aventure. Voilà. C'est-à-dire que là, on est dans le métier du façonnage ce matin et dans le métier du décorateur l'après-midi. Il faut dire aussi qu'à l'époque, quand même, les décorateurs étaient super doués. Hein. Ils avaient une dextérité dans le geste et c'était incroyable, hein, que ce soit la céramique grecque, c'est magnifique. Hein. En fait, c'est ça. Donc, on va travailler une argile rouge que vous avez déjà rencontrée au cours des manifestations qu'on avait fait sur la lampe à huile, je crois.
Sur le masque.
Sur le masque aussi.
Donc, c'est la même argile qu'on va utiliser. Et moi, entre midi et deux, je ferai chauffer les pièces. Donc, je ne viendrai pas manger avec vous. Parce que comme ça, j'ai une liberté dans le séchage pour qu'on puisse vraiment appliquer ce décor. Et que je ne voulais pas vous faire revenir deux fois à l'atelier, qu'on fasse tout la même journée. Les résultats, j'ai déjà eu des cobayes qui ont fait le même stage que vous. Mmh. Sur trois élèves qui ont voulu faire ce stage-là. Le rendu était parfait, dont une élève qui voulait pas venir parce que elle estimait qu'elle était pas bonne en décoration, tout ça. Et en fait, vraiment, elle a été très surprise, voilà, de tout ce qui s'est passé. Dans l'Antiquité, on s'installait à côté des carrières d'argile. Ce qui était normal, et puis donc il y avait vraiment des installations potières sur place. Nous, le potier contemporain, ça c'est une parenthèse, en général s'installe non pas à côté des carrières, enfin ça peut arriver, mais autrement il s'installe là où il a envie de vivre, et après il va aller chercher son argile soit directement à la carrière, soit à quelqu'un qui vit chez un négociant en argile, enfin chez un vendeur d'argile en fait, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une différence actuellement Alors, on a le fil à couper l'argile. Donc, du coup, tout à l'heure, vous allez vous prendre en passant, hop, un petit bout d'argile. Après, on pourra toujours revenir à en chercher, hein, y a pas de souci. Mais comme ça, après, vous installez là où vous voulez et après, on va le faire ensemble.
Donc là, elle est rouge et à la cuisson, elle va devenir comment?
Elle sera à la cuisson un peu plus... Alors, émaillée, elle sera de cette couleur-là, en fait.
D'accord.
Voilà. C'est, par contre, si on un peu plus clair, elle serait... en première cuisson, elle va être un peu comme ça, là, en fait. Voilà. Donc, tout à l'heure, au séchage, elle sera marron clair. Là, elle est un peu plus marron, un peu foncé, mais elle sera beaucoup plus claire tout à l'heure quand vous allez revenir, à 2h, à 1h30, enfin, on ne sait pas bien. Et donc après, au niveau de la cuisson, première cuisson, elle est toujours claire, et deuxième cuisson, la cuisson de l'émail, elle sera brillante et elle sera beaucoup plus foncée, là où on n'aura pas mis de couleur, et voilà. En gros, c'est ça. Après, il existe des argiles complètement différentes, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une argile blanche. J'ai hésité, mais je me suis dit qu'il fallait prendre ces argiles rouges, comme celle de l'époque et que j'ai vue dans les vitrines de musée. Elle était rouge, donc on va rester là-dessus. C'est plus compliqué pour une animation d'une journée. La blanche serait beaucoup plus facile, mais vous n'auriez pas le même rendu. Je pense que je suis quand même une amoureuse de la poterie et une passionnée. Du coup, je trouve qu'il faut avoir quand même une profondeur dans la texture et je trouve que l'effet est beaucoup plus intéressant avec l'argile rouge. Donc, voilà. Alors, l'argile, les carrières d'argile, la problématique, c'est que de temps en temps, lorsque, alors moi je l'achète chez un vendeur de matériel céramique, et en fait, les paquets peuvent être plus ou moins humides. Alors, soit elle est très humide, alors on vous vend beaucoup d'eau, mais c'est, moi j'aime bien quand elle est un peu plus humide. Là, ben, en fait, elle est un peu moins humide, mais on va pouvoir vraiment la travailler. Alors, ce qu'on va faire en estampage, c'est simple, on va prendre des morceaux d'argile et on va commencer. Alors, je vais vous montrer, puis après, vous irez à votre rime. On fait des petites boules, ça la ramollit, vous verrez qu'elle va devenir beaucoup plus intéressante. Au centre, on appuiera. Alors, en poterie, il faut toujours aller lentement quand même. Hein. Donc, j'appuie au centre. Et puis après, je mets une deuxième boule et en quinconce, on va venir, hop, la mettre un peu sur l'autre et puis monter progressivement dans l'argile. En fait, on va tapisser l'intérieur de la coupelle. Ça, il me semble... non, on ne l'a jamais fait ensemble.
Non, en tout cas,
on va la monter comme ça. Alors, la difficulté de cette technique-là, c'est que en fait, on sent l'argile que d'un côté.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est épais, si c'est pas épais. On verra. C'est une aventure, en fait. Donc, on va la monter et on la montera comme ça en la faisant dépasser. C'est-à-dire qu'on ira jusqu'en haut, voilà, en la faisant dépasser. Et puis après, avec l'outil, quand tout sera tapissé, on prendra l'outil et puis on coupera avoir un bord. D'accord ? Qui sera plus ou moins épais.
Qui sera irrégulier aussi.
Et non, si on le coupe près du bord, il sera bien gros.
Oui, non, mais en épaisseur.
En épaisseur, on ne sait pas. Ouais. Ça va être vos doigts. Ouais. Parce que là, on travaille vraiment avec ses doigts. Mmh. C'est vraiment ses doigts et sa tête, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bouquiné là, en ce moment sur... comme je fais beaucoup d'animation et que je vois l'évolution de la société aussi. On travaille donc vraiment avec il y a une relation qui s'établit et qu'on a un peu oublié ses doigts et on va essayer de se reconnecter et c'est vrai qui voilà quoi. Vous pouvez parler entre vous hein, il y a pas de souci mais c'est quand j'ai 25 enfants non mais et si ça parle trop et ben en fait le travail est moins beau en fait. Je vais faire par exemple, un colombin d'argile, le boudin d'argile. Donc, le vrai terme, c'est colombin d'argile. Est-ce que c'est difficile à faire, un vrai bien régulier.
Moi, il y a un problème. C'est comme ça que je fais mes gâteaux. Voilà.
Donc, je fais mon colombin d'argile. Je fais un cercle. Je peux en faire plusieurs, en fait. C'est-à-dire que il peut être épais, il peut être fin. Là, je vais en faire un autre beaucoup plus fin. un peu large. En fait, je fais plein de cerceaux. Ces cerceaux, après, je vais mettre dessus, sachant qu'après, il y a un bord qui retombe. Donc, il ne faut pas le faire non plus trop plat. Soit je le fais, et c'est là, c'est vous qui allez choisir, en fait. Je vous laisse, soit là, il est assez large, il est assez haut. Là, ici, il est plus fin. Et plus bas, la forme est différente. Donc, il va falloir que vous regardiez votre plateau de loin. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Est-ce que, dans ce cas-là, je le fais plus étroit? Et vous verrez que vous aurez une forme qui est complètement différente.
Oui.
Je vous laisse le choix. En fait. Et pour coller, alors, au final, le boudin, une fois qu'il est bien, on sait ce qu'on veut faire, on le retournera. Et là, c'est là où on va faire les stries, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la trace extérieure, supposons, là. Hop, on l'enlève, on fait les stries tout autour. Mm-hmm. Voilà.
Et oui, pour appliquer.
Sur le colombin d'argile, on va faire les stries tout autour. Mm-hmm. Je vais vous montrer jusqu'à la fin. Ensuite, on va prendre la colle, on en met sur un côté au niveau des stries. Oups, c'est pas grave. Hop. Je colle les petits traits contre les petits traits. J'appuie un petit peu. Là, je peux me le permettre. Et puis après. Soit on le laisse arrondi, soit on ne le laisse pas arrondi. On a des petits outils comme celui-là en bois. On peut soit... Alors, l'outil est le prolongement de la main. Si on y arrive avec ses mains, ses doigts, c'est le... Voilà, l'idée, l'argile, c'est le travail avec ses doigts. Mais après, l'outil va pouvoir... Voilà. Et si on veut faire un petit peu l'intérieur, faire la même chose, c'est-à-dire intégrer le pied à la forme. Mmh. Et autrement, si on veut, on peut aussi dire... On fait comme on le sent. Mmh. Le seul truc, c'est que vous, visuellement, voilà, je peux pas... C'est vous qui allez, c'est votre objet à vous. Vous allez maintenant essayer de vous l'approprier.
Alors Françoise, pour les auditeurs, tu peux rappeler les trois termes techniques que tu as employés. Tout à l'heure, on avait fait... On avait pratiqué, comment ça s'appelait la première phase?
Alors, on a coupé de l'argile, une argile rouge. Ensuite, on a mis des petits bouts d'argile dans un récipient. On les a collés les uns contre les autres et on a fait de l'estampage.
Voilà, l'estampage. Et là, pour la deuxième phase, pour fabriquer ce pied, là, cette fois-ci, on a fait ce petit boudin qu'on appelle
un colombin. Et ce colombin, on a fait des petites stries de part et d'autre pour pouvoir coller les bouts d'argile entre eux.
Et alors, ce que tu appelles la colle, tout à l'heure tu as employé le terme technique.
Alors la colle, c'est dans tous les ateliers de poterie, il y a cette colle qui est de couleurs différentes, elle correspond à l'argile qu'on utilise. Et donc cette colle, elle s'appelle de la barbotine. C'est de l'eau mélangée à de la terre sèche. Donc cette terre sèche, en fait, fond dans l'eau, c'est de la boue. Et c'est en fait la colle du potier, donc la barbotine.
D'accord. Et est-ce qu'on a une idée de la manière dont ça se faisait dans l'Antiquité? Est-ce qu'on est loin de la manière...
C'est pareil. Je pense que c'est exactement la même chose. On utilise les mêmes choses. L'estampage, c'est pas sûr, parce que je pense qu'il y avait quand même des tourneurs je pense qu'il y avait des tourneurs, des décorateurs, tout était bien.
Chacun avait sa spécialité.
Mais en tout cas, oui. l'estampage, ça, je suis pas sûre. Donc, je vais vous montrer des coupelles et visuellement pour que vous compreniez la chose. Donc, ce matin, on a fait. La coupelle, bon moi je ne l'ai pas fait sécher, la mienne. Si tout à l'heure vous voulez passer un petit peu un outil comme ça, c'est possible, en frottant un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé, elles vont très bien, hein, mais en tout cas, il y a possibilité. On va prendre les couleurs telles qu'elles étaient dans les vitrines, c'est-à-dire qu'on aura en couleur du blanc, du beige, du noir.
Et bleu.
Un peu du marron foncé, on va dire. Beige un peu marron foncé. Et on va dire. Et on va dire que c'est bon. Voilà.
Et le bleu,
Vous voyez du bleu?
Oui.
Eh bien, il n'y a pas de bleu.
C'est
un effet d'optique.
C'est noir.
C'est noir. En fait, c'est noir.
C'est noir bleu.
Par contre, on peut. Je vais vous montrer après la chose. Là, cette assiette, alors la décoration peut aller vite et pas vite. C'est-à-dire qu'on peut prendre 4 heures pour décorer, on peut prendre 1 heure pour décorer, 2 heures, on s'est donné 2 heures pour décorer. Mais en tout cas, voilà. Dans un premier temps, vous prendrez juste, si vous avez envie, un crayon, l'assiette, vous faites le tour, vous avez un contour, et si vous voulez dessiner, vous pouvez, pour juste savoir qu'est-ce que vous allez faire. Ça, c'est un brouillon, mais on peut faire comme ça. Soit on part, après, mais en tout cas, vous voyez à peu près, ou pas. Le fond, là, ici, qui est marron, j'ai rien mis. C'est-à-dire, si on laissait ces assiettes, ces plats,
et ça va être verni comme ça.
Voilà, ça sera verni comme ça.
Ah bon ? Juste avec la chaleur ?
Non, c'est-à-dire que l'assiette, là, vous allez la décorer.
Non, mais quelque chose.
Elle sèche. Sinon,
elle est émaillée.
Elle serait... Oui, il y a une couche d'émail, voilà.
Oui, oui, voilà. Ah. Elle va sécher, je fais une première cuisson qui va durer 6 heures, ça monte jusqu'à 900 degrés, un refroidissement de 24 heures, hop, je sors les pièces, comme vous les avez faites, et ensuite, je les plonge dans un bain d'émail. Et après, ça remonte. Je vais les placer dans le four. Ensuite, le four va monter jusqu'à 1030-1040 degrés en 6 heures. Refroidissement de 24 heures et l'assiette est faite. Donc, il y aura sur chacune de vos assiettes deux cuissons. Une première cuisson qui s'appelle le biscuit et ça monte à 900 degrés. Et la cuisson de l'émail qui va monter jusqu'à 1035-1040 degrés. Donc, si je mets rien, c'est comme ça. D'accord ?
Entièrement émaillé, uni.
Voilà. Si on veut décorer, en fait, il faudra mettre un engobe blanc. Voilà. Là, j'ai mis à chacun un petit pot. C'est-à-dire qu'on met un engobe blanc et sur lequel, après, on applique la couleur noir et marron. D'accord ?
Ah, ça, c'est la sous-couche.
C'est la sous-couche. Si on veut décorer, on met une sous-couche. Par exemple, mais on peut mettre aussi en sous-couche du blanc partout, de l'engobe blanc partout, et décorer. Le marron, après, si on gratte un peu, on aura le marron. Ou si on rajoute un peu de marron, on aura la même couleur. Mais en tout cas, on peut faire un fond blanc ou on peut faire un fond marron. D'accord ? Si on fait un fond blanc, on pourra décorer là où on veut. Si on fait du blanc que à certains endroits, dans ce cas-là, il faut bien calculer. Mais en tout cas, voilà, si on veut laisser ce marron. Donc là, c'est deux possibilités dans les fonds.
Ce n'était pas si compliqué. On s'est pas mal débrouillé, je trouve. Et les œuvres d'art sont maintenant dans les mains de Françoise qui va devoir les vernir, les faire cuire. Donc il se passera un certain temps avant que les artistes en herbe récupèrent leurs chefs-d'œuvre. En tout cas, c'était une belle journée passée auprès de Françoise Rebord et je vous invite à la contacter si vous aussi vous avez un projet de fabriquer un objet de céramique à l'ancienne. Elle sera tout à fait disposée pour vous proposer la marche à suivre et un devis qui accompagnera votre projet. Allez, au revoir !